16h01, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue dans le mois de mai, bienvenue chez nous dans le retour. On a du soleil, on a 13 degrés, la pluie débute à l'aube, demain 10 à 15 mm au sol, des nuages pour samedi, du soleil pour dimanche, des maximums de 16 degrés. Et sur les routes, Audrey?
Peut-être commencer par des débris qui traînent dans la voie de gauche sur Henri IV Nord après l'avenue Chauveau. C'est l'accotement de gauche précisément, là, dû à un accident. C'est en train d'être ramassé au moment où on se parle, sachez-le. Si vous êtes sur la capitale, direction est, entre Henri IV et Laurentienne en ce moment, difficile de circuler. Direction ouest, c'est entre Beau-Royal et Laurentienne que ça ralentit. Des gros problèmes aussi sur Charest, direction est, surtout entre Henri IV et Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction sud, entre Charest et le boulevard Laurier, difficile de circuler aussi. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de Charest au pont, c'est au ralenti. Duplessis Sud, même chose, dans la bretelle de Charest, direction est, vers Duplessis Sud. Ça commence déjà à ralentir jusqu'au pont Pierre-Laporte. Il y a un ralentissement inhabituel sur Henri IV Nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale. Sinon, c'est vraiment sur la rive sud, de la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, texto.
C'est sa deuxième grande tournée depuis qu'il a confirmé qu'il sera candidat à la mairie à la prochaine élection. Il est en studio avec nous. Sam Ahmad, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Travaille fort en passant.
Oui?
Oui.
Ah, j'ai hâte de voir les résultats et je pense que je ne suis pas le seul. Je sais que vous aimez avoir les feedbacks quand vous venez en onde. Vous êtes curieux de savoir ce que les gens en ont pensé.
Vous savez pourquoi? Parce que je veux m'améliorer tout le temps.
Je veux vous faire le résumé de ce qu'il y a eu comme réaction suite à votre premier passage. Dans un premier temps, les gens ont entendu beaucoup de choses qu'ils aimaient. Des choses sur lesquelles ils ne sont pas satisfaits, des points sur lesquels vous voulez travailler. Mais l'autre volet, si on veut regarder le verre à moitié vide, ils étaient très déçus de ne pas avoir concrètement les solutions ou les moyens de compenser pour, par exemple, la hausse à la taxe à l'immatriculation, qu'est-ce qu'on met à la place du tramway et ainsi de suite. Ils ont hâte de voir la viande autour de l'os.
Bien, moi, je veux leur rassurer, ils vont être encore contents quand ils vont entendre nos propositions.
Là, vous avez plein d'annonces concrètes à faire aujourd'hui pour nous autres, j'imagine?
Bien, là, mon annonce, je suis content de vous voir aujourd'hui. Et content de jaser. Puis amenez vos questions, on va vous répondre. Sincèrement, là.
Oui.
L'élection est dans à peu près 6 mois.
On a vérifié le début de la prochaine campagne électorale, Véro, c'est le 19 septembre,
oui.
C'est ça?
Oui.
OK.
OK. Alors, et donc, on a du temps en masse pour arriver avec tout ça. Là, ce qu'on a fait depuis l'annonce de la candidature, c'est important de savoir, on a fait beaucoup de terrain. On a travaillé le recrutement.
OK.
Et honnêtement, la réponse est tellement bonne là, que ça va très bien à ce niveau-là. On travaille le programme.
Vous n'êtes pas disparu entre vos deux tournées médiatiques? Parce que là, on se disait, sa maman est redevenue un fantôme.
Bien, un fantôme peut-être ici, mais pas un fantôme sur le terrain.
OK, OK.
Et en passant, vous connaissez peut-être un peu mal. Moi, je suis un gars qui travaille, qui est sur le terrain. Mm-hmm. Pour moi, la politique, c'est les gens, le peuple. C'est la première chose à faire, c'est écouter. Deuxième, trouver des solutions. Mm-hmm. Troisième, les proposer.
Avez-vous senti sur le terrain que les gens ont hâte de se faire proposer des solutions, des alternatives?
Ben, en fait, c'est eux-mêmes qui me proposent.
Okay.
Ils m'en parlent des solutions. Alors, ils n'ont pas hâte d'entendre, mais ils ont hâte de... Ils parlent de leurs choses et ça, je fais. J'écoute et c'est pas mal ce que je pense aussi. Mais c'est important d'écouter les gens parce que ça fait quelques années que personne ne les écoute, personne ne les respecte. C'est bien beau avoir une vision, bien il faut qu'il y ait une adhésion à une vision. Et c'est ça notre gros défi, c'est ça le leadership. Donc là, on fait le terrain, on rencontre des gens, on écoute et vraiment les gens sont le fun, sont intéressants. Puis ils vont être contents parce que dans le fond, là, ça va être simple. Là. Qu'est-ce qu'une ville doit faire pour ses citoyens? Comment on peut prendre le leadership dans la région? Comment on peut développer l'économie? Comment on peut avoir un système de mobilité à la région de Québec qui répond à tout le monde? Pas un quartier au détriment de la ville, au détriment des banlieues. Alors tout ça, les réponses s'en viennent. Puis surtout à l'autre élément, on est tanné toujours d'avoir des taxes parce que je ne fais pas mon devoir de gestionnaire. Puis quand je dépense trop, mais je m'en vais vers vous puis je vous demande la différence. Ça, là, c'est inacceptable.
Mm-hmm. Monsieur Hamad, pas longtemps après votre première tournée d'entrevue, vous avez fait la manchette, même la une des journaux, parce que vous avez travaillé pour le groupe Trudel, qui est très présent et très visible dans la ville de Québec, qui développe de gros projets présentement, qui sont eux aussi très présents dans les médias. Pourquoi pas éclaircir complètement cette situation-là ensemble? Comment vous vous placez par rapport à ça? Puis, qu'est-ce que vous allez faire en tant que maire pour éviter ce qu'on pourrait appeler des apparences de conflit d'intérêts?
Il y a un mot qui manquait dans ce que vous avez dit. C'est des gens qui ont eu un grand succès à Québec.
Absolument.
C'est l'homme d'affaires qui est plus en vue, le plus réussi. Alors, être une personne à côté de la personne qui est le mieux réussi à Québec actuellement, c'est, je pense, c'est un honneur. Et que cette personne-là fait appel à moi, bien, c'est un honneur pour moi. Par ailleurs, si on regarde les premiers ministres, les ministres, il y a plein de monde qui siégeait sur des conseils d'administration, puis c'est une qualité. Pourquoi? Parce que si vous avez, si vous voulez gérer, il faut que vous ayez une expérience. Puis quand vous êtes sollicité par des gens compétents, des gens qui ont réussi, mais c'est encore mieux, c'est pas un défaut. Le défaut, c'est pas avoir l'expérience. Le défaut, c'est que les gens vous appellent pas parce que ça, vous êtes pas bon, vous avez rien à offrir. Alors moi, je suis très fier de cette expérience-là. Et William Trudel, c'est un homme exceptionnel, un jeune entrepreneur exceptionnel. Puis pas pour rien, il est rendu avec 1 milliard de projets à Québec. Un développement économique important.
Mais justement, vous savez que la politique, c'est une histoire de perception. D'avoir une personne à succès comme ça, puis de pouvoir penser qu'il y a une proximité entre le politique, puis ça, pour certaines personnes, ça va être dérangeant. Pour certaines personnes, ça va faire « Ouais, on s'en va dans les magouilleries, nous, on préfère un peu plus d'indépendance. » Il va falloir que vous gériez ça. Là.
Écoutez bien, là, dans ce sens-là, là, ça veut dire qu'on veut quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui n'habitait pas la ville, il habite peut-être dans la Lune, là, parce que là-bas, il n'y a rien. Et on arrive là, pas d'expérience, pas de connaissances, connaître personne, pas de compétences, bien, ça va tomber une gestion de ville mauvaise. Alors, évidemment, les règles sont claires, puis on va respecter les règles comme telles. Puis je pense quand quelqu'un arrive avec l'expérience puis comprend de quoi qu'il parle, bien, en passant actuellement à la Ville de Québec, on a un problème de compréhension, on a un problème d'expérience, on a un problème de gestion. Puis, si je regarde les CV qui sont là, ça finit sur une longueur d'un quart d'un papier. Et c'est ça qui fait des fois la différence.
Avez-vous l'impression que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup pendant la campagne électorale? On va faire référence à votre premier passage en politique, puis on va parler d'un nuage au niveau de l'éthique et ainsi de suite?
Vous savez, il y a du monde qui cherche. En fait, moi, je me souviens, là, when they go high, when they go low, we go high.
Mm-hmm.
Et en politique, quand vous n'êtes pas fort, dans la société aussi, quand vous n'êtes pas fort, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est de faire des mauvais coups. Et moi, je ne suis pas là. Mm-hmm. Moi, là, je n'ai pas joué cette game-là. Moi, je vais amener des propositions pour nos citoyens. Puis ceux qui jouent bas, parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils ne sont pas forts, ils n'ont pas l'expérience, puis ils cherchent l'attention. Moi, je ne cherche pas l'attention. Ça prend, en passant dans le contexte actuel à Québec, là, ça prend un adulte dans la salle.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui a l'expérience dans la gestion des finances publiques, quelqu'un qui a l'expérience dans l'économie, quelqu'un qui a l'expérience dans les conventions collectives, quelqu'un qui a l'expérience dans le transport, les infrastructures. C'est ça qu'on a besoin. Un leadership, là, en fond.
Monsieur Hamad, concrètement, parce que je ne sais pas comment ça marche, mais je sais comment gérer, moi, quand j'ai des gens proches puis que je pourrais prendre la mauvaise décision parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand Véro a été engagé pour la première fois dans une station de radio, je connaissais très bien Véro, on s'était fréquenté, et ainsi de suite. J'avais dit à mon boss et à mon collègue, moi, je me retire du processus, puis c'est vous autres qui allez décider si on l'engage ou pas, puis moi, je vais vivre avec votre décision, quelle qu'elle soit. Concrètement, quand M. Trudel va arriver avec un projet à l'hôtel de ville, mettons, prenons un projet pas d'allure, leur partir le fort avec 50 étages de plus, mettons, là. Comment ça va marcher concrètement?
C'est exactement ce que vous venez de dire. Merci. Ouais. C'est exactement ça. C'est que je n'interviendrai pas. Je laisse les fonctionnaires de regarder les dossiers.
Okay.
Puis en passant, on va le regarder comme il faut, puis il faut qu'il soit bétonné pour donner prendre les positions. C'est exactement comme ça que ça fonctionne.
Le gouvernement est minoritaire. C'est Mark Carney qui est maintenant un premier ministre légitime. ce gouvernement-là a confirmé, ou plutôt reconfirmé, sa participation dans le projet de tramway. Ça réjouit M. Marchand.
Il a confirmé.
Il a dit qu'on avait encore la main là-dedans, c'est ça?
Ben, en fait, il y a eu des engagements de la part des députés de la région de Québec à l'effet qu'on continuait.
Mais là, vous faites comme on fait à l'administration Marchand. Là. On prend des mots puis on interpelle. Interprète.
Ils ont
là.
Dit qu'ils allaient respecter leurs engagements.
Oui, oui. Mais en passant, là, le projet de tramway, là, actuellement, aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a une entente financière? La réponse est non.
Est-ce qu'il y a une partie d'entente financière avec le fédéral. Par contre, le fédéral ne s'est pas encore commis pour avoir le 40 % avec les nouveaux chiffres.
Il n'y a même pas une entente financière entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, en passant. C'est encore pire. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un projet clair et défini? Non. Pourquoi? Parce que la Caisse des dépôts a dit qu'ils vont proposer leur solution en 2027. Je vous rappelle, là, 2027. Puis après ça, la Ville de Québec, le gouvernement du Québec va dire oui ou non. Donc, il n'y a pas de projet pour le moment. Il n'y a pas de projet réel. Là, évidemment...
Pourtant, il y a au moins le palier du provincial qui maintient qu'il y a un projet qui continue à avancer.
Il avance dans les études pour faire une proposition financière. Si on arrive en 2027 avec une proposition financière qui coûtera à la Ville des milliards de plus ou ça ne convient pas à la Ville, ça se peut que la Ville dit non. Donc, il n'y a pas de projet. Si le gouvernement, je veux juste finir là-dessus, si le gouvernement arrive et dit le projet il est 15 milliards, on sait aujourd'hui qu'ils ont un problème de finances, mais il dit, mais là, on ne le fera pas. Il y a toujours une question qui n'est pas décidée avant 2027. On va s'entendre. Deuxièmement, je vais finir là-dessus. Deuxièmement, rappelons-nous, le ministre Jonathan Julien, il a écrit une lettre au ministre, dans le temps qu'il était ministre, à M. Duclos, pour demander des changements ou faire les ententes. Oui. Il a reçu un refus. Rappelez-vous de ça. Donc, il n'y a même pas des ententes entre les deux parties aux convenances du gouvernement du Québec. Là, arrêtons, soyons réalistes. En main aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, on en parle du tramway. Puis quand le vent souffle, on sort, on dit « on est parti ». Là, il arrive quelque chose, on est parti. Ça fait combien de fois qu'on est parti et on n'est jamais arrivé?
Monsieur Hamad, vous avez commencé l'entrevue en disant que les gens veulent être écoutés. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a moins d'un mois que ça où 66 % des citoyens de la région de Québec disaient qu'ils étaient tannés des tergiversations concernant, entre autres, le tramway puis qu'on voulait aller de l'avant. Est-ce que d'agir comme ça, c'est de nous placer encore dans une position
passant,
sur le neutre?
Le sondage, les gens, ils disent qu'ils sont tannés.
Et Monsieur Marchand dit la même chose en passant. Êtes-vous tous d'accord là-dessus? On a trouvé un point commun.
Mais moi je l'ai dit avant lui, j'ai dit la veille que les gens sont tannés à Québec. Sont tannés de tourner en rond. Pourquoi qu'on tourne en rond, là? C'est à cause de qui, vous pensez? C'est parce que si on avait un leadership à Québec... D'abord, la Ville ne contrôle pas son projet. Ça, c'est une défaite, là. Et la Ville... Regardez, là, l'administration Marchand apprend les nouvelles... par le biais de vous, les journalistes. Ils ne le savent pas avant. Tous les projets qu'on a arrêtés à la Ville de Québec, là, il y a à peu près 2-3 semaines, là, on a arrêté plein de projets. Est-ce que la Ville de Québec savait que ces projets-là seront arrêtés? Non.
Tout le monde semble surpris. Là.
Oui, mais la Ville ne peut pas... Ça touche la Ville. Là. C'est la première à le savoir avant tout le monde. Deuxième élément, comment on a réagi? La façon qu'on a réagi est simple. On a dit, là, je vais demander un plan de contre la congestion routière. Je vais demander au gouvernement, puis je vais rencontrer le gouvernement. Parfait, bravo. Mais en passant, là, tu n'as pas besoin de tout ça, de l'annonce pour dire que tu veux rencontrer le gouvernement. Normalement, si on a un leadership, tu prends le téléphone, tu appelles la ministre, tu dis qu'est-ce qui se passe, tu jases avec, puis normalement, tu devrais le savoir avant. Ce qui est arrivé, il y a eu sa rencontre pas tout de suite. Il y a eu une semaine, je ne sais pas combien, 10 jours. Et là, il rencontre une heure et demie, rencontre avec 2 ministres. Puis c'était chaud, la rencontre. Ça sort avec quoi après la rencontre? Zéro. Aucune décision. Mais c'était vraiment intense, la rencontre. Très intense. En tout cas, une rencontre intense, ça ne donne rien après. Ça veut dire qu'on était intense dans le vide. Là.
Vous attribuez ça à la faiblesse de Bruno Marchand, alors que partout à travers la province, actuellement, les communications avec le gouvernement de la CAQ semblent plutôt difficiles.
Bien, je vous donne un exemple. Si vous étiez important dans une entreprise, dans une organisation, une personne influente, une personne qui a un leadership, quand je vais prendre une décision qui vous concerne, je pense que la première chose que je pense de faire, c'est de vous en parler avant. Ça, on fait ça partout.
Fait qu'il n'y a personne d'important dans la province de Québec pour la CAQ.
En fait, je reviens à la Ville de Québec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Ville de Québec. Et parce que je ne connais pas les autres situations, celle-là, je la connais. Et lorsqu'on apprend toujours à la Ville de Québec les nouvelles des décisions... Rappelons-nous d'une conférence de presse sur la police où l'administration Marchand faisait la conférence de presse, était au micro, puis le ministre Bonnardel a envoyé un communiqué de presse aux journalistes en même temps que la conférence de presse relativement à la police.
C'était sur les prêts de service.
Puis la ville, elle disait que, ah non, c'est le gouvernement qui doit nous payer la police. Comment ça finit, cette histoire-là? Ça finit que la Ville de Québec a reconnu qu'ils n'ont pas assez de police, puis ont décidé d'embaucher des... En passant, c'est une bonne décision, mais toute la bagarre avant, c'était le gouvernement ne nous donnait pas ça. Trouvez ça insultant, vous, que vous faites une conférence de presse, vous n'êtes pas au courant qu'un communiqué de presse est sorti. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça en passant. Jamais, jamais. Lorsqu'on travaillait avec Régis, on préparait le tout avant, on en discutait, on s'entendait, puis on annonçait.
Juste refermer rapidement la parenthèse sur le tramway, parce que moi aussi, je suis tanné, pour être bien honnête. Là. Quand vous allez être maire, si vous devenez maire, le maire Sam Ahmad, vous le connaissez, M. Carney, qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez aller l'appeler sur ce projet-là? Parce qu'il y a quand même une promesse d'argent remis sur ce projet-là. Ça va être quoi, votre première conversation avec Mark Carney?
Premièrement, je veux juste vous dire que je connais bien M. Carney, parce que moi, j'étais ministre dans le temps, en 2008, quand il était gouverneur du Banque du Canada, puis on s'est rencontrés, des rencontres des ministres de toutes les provinces.
Okay.
Deuxièmement, je connais très, très bien M. Champagne. Et je connais un autre collègue, ancien collègue, c'est l'État. Et je connais aussi Mélanie
Joly. Qui a été
élu
au fédéral lundi.
Exact. C'est tout le cabinet, futur cabinet de M. Carney. Puis en passant, ces trois-là, ces quatre-là, c'est les grandes équipes de M. Carney. Donc, normalement, un gouvernement minoritaire ou majoritaire, la première chose à faire, c'est respecter les choix des citoyens. Si je suis élu avec la bénédiction de nos citoyens à la Ville de Québec, le message est clair. Avec notre projet qu'on va proposer. Nous, à Québec, on veut ce projet-là. Je peux vous garantir une chose, c'est la Ville de Québec qui va contrôler son projet, qui va choisir son projet, et on va demander les subventions du gouvernement du Québec et le fédéral. En passant, le fédéral ne subventionne pas directement la Ville. Le fédéral va donner de l'argent au provincial, qui va donner de l'argent à la municipalité. C'est comme ça marche. Et il faut jamais négliger le rôle du gouvernement du Québec là-dedans.
D'ailleurs, parlons-en du gouvernement du Québec. Mon Dieu Seigneur, par où commencer? Vous parlez tellement de manque de leadership. Ce gouvernement-là manque de leadership par rapport à la région de Québec. Puis on va parler d'un autre politicien que vous connaissez. Puis là, je vais peut-être vous faire de la peine. Mais Jonathan Julien, qui nous dit que tout va bien. On vient de suspendre tous les projets de transport. Jonathan Julien dit que ça va bien. On a des problèmes dans Saint-Roch. Jonathan Julien dit que ça va bien. Il n'y a pas de l'air au courant de ce qui se passe. Il a dit récemment qu'il avait travaillé sur 1000 projets en transport. Puis après vérification, il y en avait 40. Le leadership et le manque de leadership, M. Ahmad, il n'est pas exclusif à la Ville de Québec. Et tant qu'on a un gouvernement qui ne s'occupe pas de nous autres, alors qu'il y a des problèmes urgents à régler, vous ne contrôlez pas la partie principale de ce qui manque comme leadership?
En fait, M. Julien, je le connais bien, c'est un bon gars, puis il a beaucoup de volonté.
J'en doute pas que c'est un bon gars.
Puis il y a un autre élément, une autre qualité, il a beaucoup de volonté pour aider la Ville de Québec. Ça, je l'ai senti, je l'ai rencontré, je l'ai vu en action. Il veut bien aider. C'est un travail d'équipe. Quand j'étais au gouvernement, là, on faisait une équipe avec la Ville de Québec. Puis quand l'équipe est forte à deux, bien, je pense que les collègues vont plus être... Ils vont accepter nos décisions.
Vous pensez que son gouvernement va l'écouter plus? Parce qu'on a l'impression peut-être qu'il est assis à la table des petits présentement.
Bien, si on a un leader à Québec qui va pousser... C'est pas juste le ministre Julien qui va travailler avec nous très fort, mais le gouvernement dans l'ensemble. En fait, et c'est comme ça qui manque actuellement. Et on se rappelle, là, vous l'avez fait, là, les trois amigos. Là.
Oui.
On travaille ensemble, les trois, pour essayer de ramener les choses. Et actuellement, c'est pas le cas. Il n'y a pas de leadership des trois ou des quatre qui travaillent ensemble. Je reviens toujours. On a commencé l'histoire du tramway, là. On a commencé comment? La Ville de Québec a perdu le contrôle de son projet. Si la Ville de Québec avait un bon projet, elle ne perdra jamais le contrôle de son projet. Ça, c'est qui? C'est l'administration Marchand. Alors, on a perdu ça, puis si on avait un leadership assez fort, là, le projet sera fait d'une autre façon. Et c'est ça qui manque. Puis je reviens là-dessus tout le temps. Si un ministre, il a la volonté de travailler, puis il a l'appui solide d'un maire avec lui, avec des bonnes idées réalisables, pas rêver, là, mais ça va être plus facile de convaincre tous les collègues, surtout ses collègues de Montréal.
Donc, vous pensez que Jonathan Julien est la bonne personne responsable de la région de la Capitale-Nationale?
C'est pas moi qui fais le conseil des ministres, c'est M. Legault. Mais ce gars-là, il a une volonté d'aider. Alors ça, c'est important. Ça commence par
parce
la volonté.
Parce que pour Saint-Roch, ça avait été la même chose. Là. Ouais. Puis là, bien, on en Saint-Roch, parle de moins
en
moins, on est ailleurs.
Mais... on a envoyé ça à M. Julien. Là, mais Saint-Roch, là, revenons à la base. Là. 2021, zéro itinérance. Qui a dit ça? L'administration Marchand. L'itinérance a augmenté de 15 ou 20 % je ne sais pas combien, mais elle a augmenté énormément. On a laissé ce quartier-là détérioré. On n'est pas intervenu. Puis là, 4 ans après, avec la piñata, on se réveille pour dire « Oh, il y a un problème à Saint-Roch. Il faut qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. » Moi, je trouve qu'on a attendu trop. Puis d'ailleurs, zéro itinérance, on est loin de ça. Puis en passant, l'itinérance, c'est un dossier provincial
oui.
avec l'appui des villes.
D'ailleurs, c'est un problème qui s'étend à la province, statistiquement
exact.
Parlant. Là.
Puis arriver, dit zéro itinérance, puis après ça, on ne réussit pas, c'est encore pire. Puis on a négligé.
Avez-vous quelque chose dans votre plan futur, M. Hamad, pour
oui,
ça?
Oui, en fait, c'est oui, absolument. En passant, je suis un ancien président de la Fondation Laubrivière, là. Alors, je connais l'itinérance, je sais c'est quoi, je sais comment ça se passe, puis je connais la pauvreté. J'étais ministre de solidarité sociale et moi-même aussi, de ce que je suis arrivé, j'étais un petit pauvre, un pauvre. Et donc, je sais c'est quoi, puis je sais que ça prend pas grand-chose. Il y a des gens, en fait, beaucoup de gens sont pauvres, c'est parce qu'ils sont malchanceux, puis il faut les aider. Ils ont la volonté de faire quelque chose. Il y a des conditions autour d'eux qui est arrivé, fait en sorte qu'ils ont connu des problèmes psychologiques, des problèmes de famille, problèmes de job. Et finalement, ces gens-là sont perdus un peu, sont malheureux, sont malchanceux. Puis je pense, comme être humain dans notre société, c'est un devoir de les aider. C'est tellement agréable, après, d'aider quelqu'un sorti de la pauvreté, sorti des problèmes d'itinérance. Je suis allé à Laubrivière il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir la clientèle à l'extérieur et à l'intérieur. Ils font un travail formidable, Laubrivière. Puis j'ai vu du monde qui ont réussi à les sortir. Je suis allé les rencontrer. Il y avait une madame. C'est tellement le fun de le voir, lui parler, cette madame-là. Elle est sortie de l'itinérance, sortie des problèmes. Elle a tellement une fierté qui est agréable.
Souvent, c'est des gens qui retournent aider après.
Exact.
Aussi.
Ces gens-là, oui, tu as raison, c'est un bon point. Parce que ces gens-là sont encore plus généreux que d'autres, puis parce qu'ils savent c'est quoi la pauvreté, puis ils savent c'est quoi la misère, ils sont capables de comprendre. Puis quand ils parlent à quelqu'un d'autre qui vit ces problèmes-là, bien, ils parlent avec crédibilité. Alors, ce qu'on a besoin, de travailler ensemble. En passant, il y a des organismes à Saint-Roch, à Québec, qui sont formidables. Il y a des bénévoles formidables. Il y a des gens d'affaires généreux qui sont là pour aider. Il s'agit de travailler ensemble, pas attendre que le problème soit avancé pas mal, pour dire « Ah, là, il faut régler ça ».
Monsieur Hamad, c'est le fun de se voir sur une base régulière parce que ça nous permet de jaser un peu des sujets d'actualité. Puis je veux jaser de quelques sujets qui ont fait la manchette à Québec dans les derniers jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe à l'Académie Saint-Louis.
Oui.
L'histoire du bruit oui. qui dérange les résidents du quartier, c'est 9 soirs sur 365 soirées. Oui. Et là, on veut se servir des fameux référendums de quartier pour faire en sorte qu'à l'Académie Saint-Louis, on n'ait plus le droit d'avoir un annonceur maison, puis on n'a plus le droit d'avoir de la sonorisation pour les 9 soirs qu'on en a besoin. Ça marche-tu, ça, les référendums de quartier? Sinon, c'est quoi qu'il faut faire pour
en
changer
fait,
ça?
En fait, mes enfants, j'ai un garçon qui a joué au football, qui a joué Rouge et Or après.
Ben vous lui direz d'arrêter de faire du bruit. Là.
Oui, ben, non, mais là, en passant, il a joué dans la Ligue nationale, Ligue canadienne, et il ne porte pas mon nom, pour ça, les gens ne le savent pas.
OK.
Puis je suis allé beaucoup à des matchs de football au séminaire Saint-François, l'Académie, puis en passant, l'Académie Saint-Louis, c'est une très bonne école.
Ben oui.
Très bonne école, puis la formation qui est là est exceptionnelle. Puis je me souviens, c'est sûr qu'on allait pour un match, on a encouragé, ça criait, c'est, on va dire, ils sont là. Donc moi, je trouve que faut un peu de compromis. Quand vous dites 9, j'avais pas le chiffre 9 là, dans l'année, là. C'est encore moins que je pensais.
C'est ridicule, je veux dire.
Exact. Puis je pense qu'il faut réfléchir à ça. Puis en fait, il faut être conciliant là-dedans, tout le monde. Puis tu sais, on est à côté, on a choisi d'habiter à côté d'une école. Alors c'est comme on choisit d'habiter à côté de quelque chose, puis on dit non, j'en veux pas, puis ça.
Mais là, vous avez contourné un petit peu les référendums de quartier. Parce que le problème des référendums de quartier, c'est que souvent, c'est les gens contre qui vont y aller, et les autres, ben ils s'en préoccupent moins. Il y a comme un vice caché dans cette façon démocratique, là, de procéder.
Oui, il faut jaser avec les gens, il faut jaser avec les citoyens, il faut en parler. Avant de prendre la dernière mesure, de dire on n'y va pas en référendum, avant de prendre ces mesures-là, il faut vraiment... en discuter. En passant, là, vous parlez de ça. L'administration Marchand, ils ont décidé de faire des logements sociaux à la place du Colisée.
Oui.
En passant, ils vont avoir le même problème.
Mm-hmm.
Parce que dans ce coin-là, ça bouge, il y a du bruit. Pensez-vous que ces gens-là, après, vont demander qu'on ferme Centre Vidéotron, puis on ferme le Grand
Marché? Par contre, à l'Académie Saint-Louis...
On va faire un référendum, puis on va envoyer le monde dehors.
La différence, c'est qu'à l'Académie Saint-Louis, il y a uniquement ce secteur-là de la ville qui a une réglementation qui est différente. Ça ne s'appliquera pas dans le secteur du Centre Vidéotron.
Non, mais il va y avoir des plaintes. Non. Il va y avoir des plaintes des citoyens. Puis là, on va être obligé de gérer les plaintes des citoyens par rapport à Centre Vidéotron, puis le bruit qu'on fait, là. Alors, à un moment donné, il faut être raisonnable, là.
Projet pilote qui a été annoncé aujourd'hui par la Ville de Québec. On appelle ça de l'abrasif en libre service. Pour un secteur glissant, la côte Saint-Jean-Baptiste en ville, pour les gens qui ne sont pas au courant, ce qu'on propose comme projet pilote, ben c'est quand la côte est glacée, vous avez un bac, vous avez du sel dedans avec des pelles. Et c'est les résidents et les commerçants eux-mêmes qui sont appelés à s'occuper de leur côte. Vous pensez quoi de ça?
Oui, et ces gens-là, en plus, payent des taxes, puis on les fait travailler, c'est le fun, c'est agréable, hein? Et on va voir les résultats, là, mais tu sais, c'est, je sais pas, là...
J'ai rien contre le do-it-yourself, mais à un moment donné, moi, si je paye des taxes, je veux que la gratte passe.
C'est le point fondamental actuellement.
Ouais.
C'est le point fondamental parce que les gens payent des taxes pour avoir des services. Puis de l'autre côté, l'administration Marchand, il dit, nous, on a la vision, on regarde plus loin. Puis pendant que la gestion de la ville, on l'oublie parce que ça, c'est pas important. Avoir la vision, c'est pas important, les services des citoyens. Quand vous parlez de services des citoyens, là, c'est du passé. Alors ça, c'est la mentalité incroyable de ce qu'on a actuellement. Puis en passant à une vision, s'il n'y a pas d'adhésion, c'est pas une vision, c'est un rêve. Puis, à la Ville de Québec, on n'a pas besoin de rêveurs, on en a assez, on a besoin des gens qui exécutent.
Fondamentalement, les gens sont prêts à payer un certain niveau de taxes, mais ils veulent sentir le retour. Puis je pense que c'est un des plus gros malaises qu'il y a à Québec présentement. Les gens ne sentent pas le retour. Des fois, ils sentent qu'on leur enlève des services, puis peut-être que le cas des abrasifs en libre-service, c'est un cas extrême.
Mais moi, je vois plus loin ce que vous dites, parce que je ne suis pas d'accord que juste on paye... puis on a des services. Il faut que l'autre côté qui donne des services, il faut qu'il fasse l'effort pour bien gérer l'argent que je paye.
Mm-hmm.
Et ce qu'on ne fait pas actuellement. La taxe sur l'immatriculation, c'est l'exemple idéal de ce que vous dites. Ah, on a besoin de l'argent. Donnez-moi de l'argent, on va vous taxer. Puis écoutez, on va faire des projets, là. Inquiétez-vous pas, on va faire des projets. Il arrive à la fin, il paye 9 millions pour la dette, la RTC. Alors donc, là, il aurait dû faire un effort, dire on fait un effort dans la gestion. Puis on essaye de faire notre effort avant de demander de l'argent aux gens. Mais en passant, actuellement, non. Il y a un problème, une taxe. C'est pas comme ça qu'on doit gérer l'argent des gens, surtout ce temps-ci de l'année, là, ces années-là qu'on vit, là, c'est difficile, là.
Monsieur Hamad, je ne sais pas si c'est de l'argent qui commence à être distribué parce qu'on est dans une campagne électorale bientôt, mais moi, à partir du moment où on a un retour sur notre argent, que ce soit pour des raisons électoralistes ou autres, j'ai tendance à les prendre. Je pense que c'est un peu pour ça que le Centre Vidéotron existe après tout. Mais, au-delà de ça, il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été annoncés par le maire Marchand pour revamper les parcs, les espaces.
Les infrastructures de sport.
Exact. Vous êtes pour ça?
En fait, on appelle ça la piñata. Tu sais, l'élection arrive, on frappe la piñata, le chocolat sort ou les bonbons sortent.
Ça marche tout le temps de même.
C'est exactement maintenant. En passant, là, moi qui fasse des projets de même, je suis content d'une chose.
Mm-hmm.
C'est que, n'oubliez pas, là, le contribuable qui nous écoute aujourd'hui, le total des taxes qu'on paye à la ville, c'est 2 milliards. Que la ville prend 2 milliards pour gérer les services puis qu'il dépense pour des affaires de loisirs, c'est normal. Mais il reçoit 2 milliards, puis il en donne 10 millions en loisirs ou d'autres. Alors, il fait sa job. Enfin, il fait une job pour dépenser l'argent qu'il reçoit, mais à bonne place. Alors, si on
faut en mettre plus?
En fait, il faut améliorer la gestion pour commencer. Il faut optimiser les opérations. Là, on va faire des économies qui vont nous permettre de donner meilleurs services et faire plus. Pas faire plus en demandant la taxe, là. Ça, là, c'est la solution la plus facile, la solution des amateurs qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas la gestion puis n'ont jamais géré.
Parce que lors de notre première conversation, M. Hamad, j'ai compris que la taxe au chat pourrait disparaître. J'ai compris que la taxe à l'immatriculation pourrait être réduite. L'argent qu'on va avoir besoin pour avoir des services, on va aller la chercher où? Parce que si on enlève ça, vraisemblablement, il va falloir aller la chercher ailleurs.
Oui. Puis en passant, quand on regarde la façon qu'on fait, on gère les contrats. Exemple, je vous donne un exemple, Centre Newton, là, le garage. Là.
Oui.
Savez-vous qu'ils ont acheté le garage Newton, l'RTC, ils ont payé 25 millions à Simons, et c'était un entrepôt là, de linge. Mm-hmm. Et là, ils sont aperçus après que l'entrepôt de linge ne peut pas entreposer des camions. Ils étaient obligés de tout démolir puis recommencer avec une construction plus compliquée. Pour ça, ce projet-là coûte beaucoup plus cher. Et on a des exemples de gestion. Le nombre d'employés à la Ville de Québec a augmenté d'une façon importante. Augmenté le nombre de policiers en passant, je suis d'accord. Ça, là, aucun doute là-dessus.
Okay. Ça, c'est justifiable comme dépense?
C'est justifié. Les pompiers, les polices, les cols bleus, ça, là, on en a besoin.
Fait que ce serait de couper des postes à la Ville pour récupérer de l'argent?
Bien, en fait, couper dans les dépenses, couper dans la gestion, gérer mieux. Puis si on gère mieux, on est capable de dégager. On a un budget de 2 milliards, hein? 2 milliards de budget. Si on gère mieux, on est capable de sortir, de dégager beaucoup d'argent.
On a parlé avec le maire Marchand il y a 2 semaines. Il a très hâte de débattre avec vous. Il a dit qu'il allait accepter les invitations. On va sûrement vous en lancer une. Avez-vous hâte aussi?
Oui, j'ai hâte. En passant, moi, ce gars-là, M. Marchand, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a eu le courage de se présenter en politique. Donc, j'ai rien contre lui personnellement. Par contre, c'est clair, on est les deux extrêmes dans les idées.
Mm-hmm.
Puis si je veux me battre avec lui, c'est débattre plutôt, pas me battre. Débattre les idées avec lui, oui, parce qu'on ne s'entend pas sur les idées. Ça va être plate parce que lui est à gauche, moi je suis à droite, ça fait qu'on ne s'entendra pas sur rien.
Les autres, comment vous les trouvez? Vous avez sûrement eu des discussions dans les derniers mois. On a entendu parler de fusion possible de partis, et ainsi de suite. Patrick Paquette, Claude Villeneuve, parlez-nous d'eux un peu.
Bien, M. Villeneuve aussi, je vais le féliciter pour avoir le courage de se présenter avec sa jeune famille. Quand même, une jeune famille se présente, bravo. Et j'ai vu, il a fait quelques interventions récemment. Il avait besoin d'attention. C'est correct, vous l'avez donné. Parfait. Puis en passant, il faut qu'il commence par gérer son caucus avant de pouvoir gérer la ville. Il faut qu'il démontre qu'il est capable de gérer un caucus avant d'être capable de gérer la ville. Et tout ce que j'ai à dire, puis je l'encourage à continuer à travailler bien. Puis la politique, en passant, lorsqu'on est obligé d'insulter, on est obligé de dire des mauvais mots sur l'autre parce qu'on n'a pas d'argument. Moi, j'aime mieux qu'on soit intelligent, qu'on essaie d'avoir des arguments, puis qu'on se bat sur les arguments et les idées au lieu de se battre sur au lieu d'avoir ça au niveau personnel.
Vous avez dit que M. Marchand était désespéré, c'était en une du journal ce matin.
Oui, ça c'est une description de l'état d'âme actuellement qu'on a en passant.
On joue avec les mots.
Non. Attention, vous savez pourquoi qu'on a dit ça? Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il arrive quelque chose, on dit « on est parti pour le tramway ». Combien de fois que vous avez entendu le mot « on est parti, là ». Là, c'est vraiment parti. Puis là, on tombe. Là, on recommence. On est parti. Mais ça, quand quelqu'un fait ça, chaque fois qu'il arrive, n'importe quelle nouvelle. Là, il y a une élection, je ne sais pas, pendant l'élection de Trump, je ne sais pas si on a dit qu'on est parti pour le tramway aussi, là, on ne l'a pas dit, j'exagère. Mais on est parti tout le temps, puis dans le fond, rien de parti. Alors ça, c'est quelqu'un de comportement de quelqu'un exagéré, désespéré plutôt.
Vous avez parlé de Claude Villeneuve. Vous n'avez pas parlé de Patrick Paquette. Je veux savoir si vous vous entendez bien avec. Êtes-vous fusionnel avec Patrick Paquette?
Non, on n'a pas fusionné. M. Paquette fait son possible. Il a une expérience en politique municipale. Il a donné ses opinions. Il a travaillé fort. Puis actuellement, non.
Votre équipe est constituée à quel pourcentage à peu près, là?
En fait, on a le double des demandes de postes qu'on peut avoir pour remplir le conseil municipal, les candidats, en passant, minimum.
Okay.
Donc là, on est vraiment dans une période de sélection. On a plusieurs de sélectionnés et on continue à faire les entrevues.
C'est-tu des gens connus? Je ne sais pas, moi, par exemple, des élus municipaux qui sont mystérieusement devenus indépendants dans les dernières semaines.
tout ce qui est compétent, nous autres, nos portes sont ouvertes pour les gens compétents. Puis pour moi, la compétence est à deux niveaux. C'est premièrement travailler son district, aider ses citoyens, être à l'écoute. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, évidemment, c'est l'expérience, puis quelle est la valeur ajoutée qu'il peut apporter au caucus.
Monsieur Hamad, en terminant, Jean Charest s'est lancé dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Puis après sa défaite, je l'ai entendu dire dans une entrevue, c'est terrible comment est-ce que la façon de faire de la politique a changé en l'espace de quelques années. Puis il avait l'air de dire ça un peu de façon négative. Là, vous avez retrempé là-dedans un peu. Trouvez-vous que ça a changé? Ça a-tu changé positif, négatif? Ça a changé comment?
En fait, c'est les médias sociaux, probablement, M. Charest parle. Et les médias sociaux sont plus agressifs, sont plus...
Êtes-vous là-dessus, les médias sociaux?
Non, pas beaucoup. Mm. Pas beaucoup. On a l'équipe, on est là-dedans. On a quelques sites, évidemment. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours été le gars qui... Un gars optimiste. Et pour être optimiste, il ne faut pas regarder les nuages parce qu'on devient pessimiste. On ne regarde pas les problèmes, on regarde les solutions. Alors, c'est ma façon de voir. Alors, les opinions négatives... Tu sais, on le sait, là, on est des êtres humains, on le sait. On est-tu bon, on n'est pas bon? On est-tu fait une bonne entrevue ou non? Puis on continue. Mais ce qui est le plus important, ce qui m'a aligné dans toute ma vie, c'est pas voir les murs, pas voir le négatif, puis avancer, puis avec des bonnes idées. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écouter, travailler, puis avancer.
Faites attention, M. Hamad, par exemple, parce que entre être optimiste et jovialiste, il y a un pas dangereux, puis on se retrouve à dire que tout va bien sur tout. Je ne fais pas référence à personne dans l'actualité présentement. Il faut faire attention à ça.
Oui, ça, c'est l'ignorance. Et c'est en fait, être optimiste, c'est pas ça. Être optimiste, c'est avoir confiance, avoir des bonnes idées, travailler. Puis surtout, quand vous aidez les autres, là, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir.
Sam Hamad, merci.
Merci.
On se reparle bientôt.
Oui.
On se fait ça une fois par mois. C'est le beat qu'on a
avec
le maire.
Vous avez suggéré là, la dernière fois. Mais là, ce qui arrive. Là,
c'est parce que là, il n'y a pas d'affaires concrètes encore. C'est donc bien long, ce striptease-là, M. Hamad.
Il y a beaucoup d'épaisseur de vêtements. Oui, mais... encore frette le 1er mai.
Mais l'hiver est fini, M. Hamad. Il faudrait se déshabiller.
Oui, oui. Mais vous ne serez pas dessus de ce que je veux vous présenter après. Pas de mon striptease, de ce que je vais présenter. Puis en passant, j'ai vu la dernière fois, vous avez sorti ce que j'ai dit, vous avez demandé le commentaire.
Oui.
Là où vous n'avez pas fait ça avec moi, de dire ce qu'il a dit puis commenter ce qu'il a dit. Alors là, vous devrez faire égal un petit peu.
Bien, c'est pour ça qu'on veut lancer le fameux débat. Puis moi, si vous nous dites oui officiellement sur les ondes, là, on veut vous inviter tous les deux, en fait.
Oui, non, vous avez fait le débat indirectement. Là, il a commenté ce que j'ai dit sans que... Puis je l'ai écouté en passant. Il a fait son effort. Et c'est un gars habile en passant, très habile. Il a beaucoup de qualités, d'habilité, de vocale et expression. Il est très bon là-dedans.
Vous voulez qu'on vous donne la chance de répondre aussi la prochaine fois?
Bien, faites égal, comme vous avez fait
avec
lui.
Parfait, c'est noté.
Mais, de toute façon, si vous ne le faites pas, moi, je le fais pareil.
C'est bien correct. Votre prochaine annonce, ça va être quand, à ce moment-là?
La prochaine annonce, prochainement.
Prochainement, génial. Tu vas régler, Audrey.
L'impression d'attendre...
On s'écrit, M. Hamad.
L'impression d'attendre un album de Guns N' Roses. Merci, M. Hamad.
Merci.
Prochainement. Merci. 16h38, on s'arrête pas longtemps, on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102. Gravel.